Bienvenue dans le podcast Business Impact au féminin. Ce podcast s'adresse aux femmes prêtes à bâtir un business d'envergure, à laisser une empreinte indélébile et à générer d'importants revenus, tout en restant fidèles à leurs valeurs profondes. Si vous êtes prête à emprunter des chemins moins fréquentés et à échanger la médiocrité contre l'extraordinaire, il est temps de passer à l'action maintenant. Hello, hello, Eugénie, et merci d'être venue dans ce podcast. Tu es la première de la série pour des interviews d'entrepreneurs inspirantes. Donc, bravo à toi d'être venue en premier. Et du coup, avant de plonger dans le vif du sujet, parce que ton histoire, moi, m'inspire énormément, j'aimerais que tu partages avec tes mots qui tu es et ce qui t'occupe au quotidien et un peu ton parcours entrepreneurial, même si on va parler un peu plus de ce parcours-là ensemble.
Merci beaucoup. Déjà, c'est un grand honneur. C'est la première. Ça met la pression, là. Ça met la pression. Je suis trop contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Moi, je m'appelle Eugénie. Souvent, je dis Eugénie de Pop-Up Image. Donc, j'ai créé mon agence de conseil en image et personal branding il y a 8 ans. Il y a 8 ans maintenant, j'ai fait beaucoup de conseils en image, au style vestimentaire, et je me suis arrêtée il y a 4 ans pour me consacrer totalement à la stratégie d'image de marque personnelle. Enfin, comment pouvoir en fait valoriser son activité grâce en fait à sa personnalité et faire en fait que les clients veuillent travailler avec nous pour nous. Donc ça fait 8 ans, des hauts et des bas, on va en parler, mais ça fait 8 ans, et ce qui m'occupe aussi, ben voilà, c'est ma vie de famille recomposée. J'ai déménagé aussi de Paris à la campagne en Normandie, donc c'est aussi une belle vie avec des travaux dans la maison depuis 3 ans en rénovation. Donc la vie privée, la vie professionnelle, voilà, font un bel amalgame. Je ne trouve pas forcément l'équilibre, mais je ne le cherche plus, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vis actuellement.
Voilà. Et c'est pour ça que je suis très intéressée que tu viennes parler de tout ça, parce que tu as une vie quand même qui est, on va dire, bien chargée. Hein. On va dire, tu t'ennuies pas. Et tu as vécu quand même pas mal de choses, parce que 8 ans d'entrepreneuriat, c'est vrai que là, on voit beaucoup les gens qui disent qu'ils réussissent en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on voit pas quand même des entrepreneurs qui ont quand même un gros bagage, et des fois on ne le voit pas sur les réseaux sociaux en fait, même si on voit ton parcours sur un peu ce que tu postes, etc. On va pas aller dire elle a 8 ans d'entrepreneuriat, ah oui quand même. Donc c'est intéressant à voir, mais ce qui est intéressant aussi, donc on va parler de plusieurs choses, mais déjà si on te connaît un petit peu, t'as mentionné un échec, je vais me mettre en guillemets parce que voilà, c'est le mot qu'on utilise, mais pour moi c'est pas un échec. Voilà, en 2022 qui t'a conduit en fait à revenir au salariat, je crois que c'était en temps partiel. Et alors, j'aimerais bien savoir un peu quel a été le contexte, comment tu as géré un peu ce moment qui pourrait être, je pense, difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, dans mon audience, peut-être dans la tienne, ou même qui nous écoutent, qui ont peut-être envie, ou peut-être plutôt le besoin, d'avoir un petit boulot à côté pour pouvoir bien développer leur entrepreneuriat, ou qu'on des doutes. Donc, ça serait bien de partager cette expérience avec nous.
Mais avec grand plaisir maintenant, et effectivement, j'ai considéré comme un échec. Maintenant, avec le recul, c'est une expérience, je pense, que je devais passer par là. 2022 pour moi, donc 7 ans d'entrepreneuriat, et je passais en fait à une phase où je travaillais avec une business manager. J'avais mon bureau, donc je partais de la maison, j'étais vraiment, j'avais mon bureau, une activité que je louais avec d'autres entrepreneurs, et j'étais prête à passer à d'autres phases de mon activité. Il faut dire que j'avais plusieurs activités, donc j'étais à la fois formatrice dans une école de conseil en image, j'étais aussi prestataire, donc j'accompagnais des entrepreneurs sur 3 mois avec un de mes plus gros clients, justement dans leur phase de développement, et c'est lui qui me donnait. Effectivement, j'avais mon plus gros CA grâce à lui, et j'avais mon activité de personal branding. Et donc en 2022, donc 2021-2022, donc 2021 confinement, et en fait mon activité a explosé en ligne. Car je m'y suis mis comme beaucoup en ligne sur Zoom avec des activités, et ce qui a permis que j'ai développé le côté prestation, donc freelance pour la en tant que formatrice, et en tant que coach pour entrepreneurs, et j'ai un peu, là c'est avec le recul, enfin, délaissé mon activité principale. Ce qui fait que j'étais focus sur les activités, mes activités de freelance, et en 2022, donc mon plus gros client a eu un très gros succès, il n'a pas su gérer en fait sa trésorerie, son BFR. Donc il est monté très vite, et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, il s'est retrouvé, il n'a pas pu nous régler en fait. On était 10 coachs, plus ses 3 salariés, et il n'a pas pu nous régler. Et ce qui fait que j'ai tardé, j'ai mis parce que c'est quelqu'un que je connaissais bien, et j'ai tardé en fait à le mettre en recouvrement, parce que j'ai dû le mettre en recouvrement parce qu'il me fallait. Mais ça a été quelque chose en fait moralement de terrible pour moi, parce que je pensais pas que cette personne aurait pu me faire ça, ne pas me payer, mais me dire ben oui, chez les entrepreneurs ben ça arrive aussi, alors comme on pense que c'est des trucs de salariés, de sales types entre guillemets, de mauvais payeurs qui sont aussi alors qu'ils sont horribles, alors que tu la connais cette personne, tu sais qu'elle est pas mauvaise. Mais moralement ça a été dur, mais c'est surtout que je suis restée focalisée donc pendant plus de 6 à 7 mois sur ça. Je n'osais pas lui envoyer des mails, mais j'essayais de me dire, voilà, mon conjoint me disait, mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Cette personne me devait, avec les arriérés, 7 000 euros.
Avec un.
Et en fait, ces charges-là, je les utilisais pour l'allocation de mon bureau et pour d'autres choses dans mon activité. Mais j'ai été focalisée sur ce manque, mais je n'ai pas forcément agi à temps pour rétablir la situation. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, j'ai de plus en plus en urgence. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, mais attendez, il faut que moi, mon activité aussi, elle puisse survivre. Donc, il faut que je retrouve des clients vite, vite, vite. Et là, j'ai recommencé en mai 2022 à me dire, bon, là, je vais faire une masterclass, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais créer une stratégie voilà, de visibilité, proposer des produits. Sauf que pendant quelques temps, ben, je n'avais pas communiqué. Donc, j'avais perdu en fait le lien avec mon audience, parce que j'ai une audience privilégiée sur Instagram, et je débarquais avec des choses précises, donc des masterclass sur le personal branding, alors que ça faisait longtemps que je n'en avais pas forcément parlé, ou que je n'avais pas proposé mes offres, ce qui fait que je me suis retrouvée en total décalage avec ma cible et les attentes de ma cible. Donc ça a pas pu matcher. Donc et c'est en août 2022 que là j'ai décidé enfin de mettre la personne en recouvrement. Déjà, et j'ai pris des décisions, celle de revenir travailler chez moi, donc j'ai arrêté la location, et aussi la plus grosse décision, ben, parce que je pouvais plus subvenir à ces charges, ben, de travailler avec ma petite signature. Donc j'avais toute une organisation commencée, en fait, pas forcément à scaler, mais à avoir une structure d'agence qui s'est totalement arrêtée en quelques mois, mais là, en quelques semaines, parce que ben, ça, j'arrête. Et en août, ben, mon conjoint m'a poussé en disant, mais écoute, si tu retrouves un travail. Gros mot pour moi.
Gros mot.
10 ans, donc 10 ans de cela, dans le courtage en assurance, j'étais chargée de communication. Donc voilà, le monde du salariat, c'était ancien pour moi. Quand je suis devenue entrepreneur, je me suis dit, ça y est. Je passe à autre chose. Je ne pensais pas. Et donc, pour certains, peut-être comme pour moi, salariat, c'est gros mot, quoi. Ça veut dire retour en arrière. Ça veut dire pas avancer, en fait. Ça veut dire retour sur quelque chose que, justement, j'ai lutté pour ne plus avoir, pour avoir cette liberté et tout ça, et dire, et si tu retournais au salariat, j'ai pas entendu, enfin, ce que me conseillait mon conjoint pendant quelques temps. Je disais, non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai pensé, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Quelle est l'image que ça va représenter, de dire, bah, écoutez, je suis retournée au salariat. C'était quelque chose, je pense, plus émotionnellement que, logiquement. J'ai pas pensé à la logique en disant, mais si, regarde tes chiffres, regarde ça, mets-toi le nez dedans. Voilà. Si tu veux être logique, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je me suis mis des œillères. Mais j'ai passé le pas autrement, on va pas en parler, en septembre 2022.
J'aime beaucoup parce que tu as parlé beaucoup de choses là. Déjà, tu as parlé que tu peux avoir ton ancien client, tu avais un gros client. Et ça, je le vois souvent dans les personnes que j'accompagne. Quand on a un gros client, quelqu'un qui est très fidèle et on travaille ensemble, il faut faire très attention parce que si on met pas des stratégies en place au cas où, qu'il n'y ait pas cette personne, etc., ou qu'on ait un plan B, ben on se retrouve dans des grosses situations. Et je sais que j'ai eu beaucoup de clientes qui ont eu ce schéma-là. Et ça peut m'arriver à moi aussi, j'ai des clientes qui sont là depuis plus d'un an. Mais si, parce que les stratégies qu'on met en place, quand tu t'en es rendu compte, que tu as commencé à prendre tes décisions, comme tu dis, c'était trop tard. Tu ne parlais plus à ton audience, etc. Et j'aime bien quand tu l'exprimes parce que c'est te dire que quand tu mets, si t'es pas trop là sur les réseaux sociaux ou ce qu'on utilise, hein, y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Mais si on n'est pas dans une tactique de marketing, un peu de visibilité, etc., et que d'un coup on arrive comme des fleurs, voilà mon super programme.
Exactement.
Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas remis en cause forcément ton programme. Parce que tu dis, mais en fait, il n'y a personne là. Les gens, ils sont un peu, mais qu'est-ce qui se passe?
Ben ouais, et qu'est-ce qu'elle débarque en plus avec ça? Et en plus, ça fait longtemps qu'elle n'a pas proposé une offre. Et là, elle arrive et elle nous martèle en plus parce que j'étais dans le truc. Voilà. Et non, c'est aussi rapidement, c'est voilà, quand on est en situation d'urgence. Voilà, mais c'était la seule, en tout cas, échappatoire pour moi, c'était la seule solution. C'était retrouver des clients vite, justement, pour. Et maintenant. Voilà, on en reparlera, c'est ce que maintenant j'essaye de faire, que mon activité principale, voilà, soit la seule qui puisse être indépendante par rapport à, voilà, à des prestations que je puisse faire, même si j'ai des clients maintenant, mais voilà, je préfère être le plus indépendante possible, justement pour éviter ces cas où mais tu es tributaire.
Voilà. Et j'aimais aussi le fait que tu disais que tu étais focalisée donc, sur le manque, essayer de faire des ventes rapides, et là, en fait, on perd l'essence de pourquoi on est entrepreneur, pourquoi on fait nos services, et donc les gens ils vont pas mordre à leur même son. Ils viennent pas forcément. On est dans une mauvaise énergie qu'on parle de comme ça. Moi, ça m'est arrivé de dire à une cliente, si tu as l'opportunité de prendre un petit boulot à côté, même si c'est quelques heures, fais-le, même si on travaille ensemble, pour trouver des clients, pour que tu sois libre de ce manque-là de l'argent. Parce que dès qu'on est dans le manque, on n'a pas le pourquoi derrière qui marche. Les gens,
pourquoi ils ne peuvent pas convertir. Et je pense que ça se ressent aussi. Et je pense que ça se ressent aussi parce que on martèle et qu'on n'a pas l'habitude de marteler, donc la personne, elle est là. Je pense que ça se ressent. Et comme tu dis, en termes d'énergie, même si tu crois à ton produit et tout ça, tu n'as pas la même vie que quand tu es serein et tout ça. Mais bon, tu penses que, j'ai besoin de ci maintenant, donc il faut que je parle de ça.
C'est ça.
Alors qu'il faut toute une stratégie. Et c'est vrai que avec le recul, j'avais remarqué que je n'avais pas développé justement de stratégie claire, en tout cas, sur la durée, c'était « je veux des clients, je propose mon offre
». Ce qui peut être bien, hein, c'est bien de vendre, hein, c'est une très bonne action, il y a des gens qui n'arrivent même pas à vendre, mais c'est vrai que s'il n'y a pas tout le travail avant, moi je sais certaines clientes, on a mis en place des stratégies parce qu'elles avaient laissé de côté leur stratégie, bah, ça prend 3 à 6 mois pour avoir vraiment des clients qui soient du niveau qu'elles veulent, quand ce n'est pas des petites offres, après ça dépend de beaucoup de choses. Mais du coup, toi, est-ce que tu as travaillé, même avec ton temps partiel, quand tu as repris ton temps partiel, est-ce que tu continues à travailler sur le côté?
Alors,
comment
oui
ça s'est
et
passé?
Non. Donc, en septembre 2022, donc je suis convaincue et j'ai décidé de retrouver un travail en temps partiel. Alors, j'étais forcément conseillère d'image en style vestimentaire, donc j'ai essayé de retrouver quelque chose dans le milieu du conseil en image, donc vendeuse en boutique, tout simplement. Et je n'ai pas communiqué du tout. Alors, j'étais très présente, je suis toujours maintenant très présente sur les réseaux. Et pendant cette période, donc de août à jusqu'à à janvier, février 2023, je n'ai rien dit. En tout cas, sur les réseaux, de ce qui se passait, je disais juste que voilà, j'ai eu des échecs. J'ai parlé de mon échec. Mais je n'ai pas dit ce que je faisais après. Et donc, je n'ai très peu communiqué vraiment, alors que je communique tous les jours, en général. Mais là, j'étais absente vraiment pendant de longs mois parce que j'avais honte de ce retour au salariat. Je sais qu'il était voilà important, mais j'avais honte. Et donc, je n'en ai pas parlé. Et c'est après une période jusqu'à février où là, je recommençais un petit peu à m'organiser et j'ai retrouvé ce plaisir, en fait, ce plaisir de communiquer. Et c'est pour ça, c'est là que la dramapreneur est née, en fait. Donc, je regardais ce que les gens faisaient. J'étais à mon activité salariée, mais je ne disais rien.
C'est intéressant comme ça. Si là, est-ce que tu aurais des petits conseils ou des petits mots, un petit mot à dire aux gens qui se trouvent dans une situation un peu similaire, de dire si je continue comme ça, j'ai rien le mois prochain pour manger quoi. Si je continue mon activité et de dire faut que je vende, ils disent petit doute, est-ce qu'il vaut mieux pas que ou que je laisse tomber parce qu'il y a quand même des gens qui se disent c'est tout ou rien, donc je laisse tomber tout, je fais comme un salariat. Mais toi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui se retrouvent dans une situation qui peut être un peu précaire pour niveau financier? Mais qui ne veulent pas abandonner forcément leur rêve d'entrepreneuriat.
Justement, que s'il veut continuer, là, il faudra être ouvert. Parce que celui qui m'a fait changer d'idée, c'est un proche, mon conjoint, qui n'est pas du tout dans les réseaux sociaux, qui ne connaît pas du tout ça. Il a été entrepreneur, mais pas du tout de cette façon-là. Et il m'a permis de sortir un peu, en fait. Donc, je leur dirais, coupez les réseaux sociaux. Coupez ce que vous voyez en fait en train de vous dire mais oui moi j'ai réussi en tel mois je fais ça mon email a fait 30 000 euros, oui, parce que tu as 10 000 personnes qui te suivent, et donc voilà, coupez-vous des réseaux sociaux et remettez-vous un petit peu, pas les pieds sur terre, mais dans cette réalité-là. C'est en coupant les réseaux sociaux et justement en confronté à ben, il faut payer voilà les traites hein, parce que les propriétaires parce que ben, il faut aussi il y a ça et si moi je voulais continuer à participer comme mon activité mon bourgeois a dit mais si tu veux participer là il faut que tu, voilà il faut qu'on ait de l'argent maintenant à la fin du mois et quel est la seule moyen d'argent de l'avoir à la fin du mois c'est trouver un boulot parce que tu sais que l'entrepreneuriat, oui, ça met du temps. Et même sur les réseaux, on s'en sort pas tout le temps, mais ça met du temps. Le temps de trouver sa cible, le temps, comme je le dis souvent, moi, en personnel branding, d'installer sa communication.
C'est ça.
Pour habituer les personnes à nous identifier et à nous mémoriser, ben, ça peut prendre effectivement de 3 à 6 mois. Et j'ai des personnes qui sont en conversation avec moi depuis plus d'un an, et c'est seulement après qu'ils ont pris voilà, une offre avec moi. Et là, il fallait que je me remette dans cette réalité. Donc, je leur dirais, éteignez un peu les réseaux sociaux et regardez un petit peu ce qui se passe dans votre vie.
Ouais.
Moi, j'étais quand même toujours sur les réseaux sociaux en train de regarder en disant, oh, ta vie fait ça, ta vie fait ça, et tu te trompes pas.
Complètement.
Et même, tu as honte parce que je suis retournée au salariat, moi, après 8 ans.
Et oui.
Et on peut avoir l'impression, ben, qu'en 8 ans, en fait, tu te développes d'une manière exponentielle, tu vas avoir une entreprise avec 10 salariés et tout ça. Moi, c'est aussi ce que je voyais. Et je me suis dit, mais non, en fait, je reviens à un stade. Même si ça fait 8 ans, bah, t'as l'image de te développer, mais en fait, chacun a son propre chemin. Mais bien sûr, en tout cas, qu'en 8 ans, oui, j'ai vécu mon activité. Et il y en a qui veulent effectivement avoir 10 000 euros par mois et tout ça, mais je me suis dit avec le recul, non, en fait, en 8 ans, j'ai vécu mon activité en 8 ans. C'est ce côté où tu restes sur tes ornières, et là, le danger, entre guillemets, des réseaux sociaux, c'est se comparer et de rester là. Donc, je leur dirais, couper un peu les réseaux et regarder vraiment
votre réalité.
Revenez à votre Excel, regardez votre chiffre. Mais ce que je faisais plus, c'est vrai, hein. On sait à peu près, mais quand on se pose vraiment, et quand j'ai fait d'ailleurs ton challenge, je me suis vraiment posée, ça c'est efficace, donc de couper.
Tu parles que tu avais l'impression que ça faisait un retour en arrière, que tu avais honte à ce moment-là, mais tu as décidé quand même de relancer ton activité, on va dire ça comme ça, ou de lui redonner un bon élan, et du coup, de le faire d'une manière différente. Donc, parce que là, tu as en fait essayé d'apprendre de ce qui s'est passé pour le faire de manière différente. Moi, aujourd'hui, quand on voit du jeûne et drama, moi, je pense à toi. Hein. Je veux dire, c'est
bon, bah, c'est bon, c'est que ça marche.
Voilà, mais donc, je veux dire, c'est jeûne, c'est noir, et bam, ce drama poneur, cet humour, etc. Enfin, on voit ton personal branding, il est... voilà, je vais vous dire. Donc, du coup, quand tu as décidé de ça, est-ce que tu peux partager un peu les leçons donc, que tu as apprises et que tu dis, ben, voilà, maintenant... De cette période-là, il s'est passé ça, mais aujourd'hui, voilà ma nouvelle approche.
Le premier mot, simplification. En fait, je me suis mis à enlever des process qui n'avaient plus lieu d'être puisque je travaillais à nouveau toute seule. Mais juste pour revenir à quand je suis redevenue salariée, j'ai voulu faire et garder ce que je suis à temps partiel. Donc dans ma tête, en fait, il y a toujours ce côté, je reviendrai aussi, c'est aussi le challenge de dire, je reviendrai aussi à temps plein. Mais donc, je voulais garder un temps partiel parce que je pense que j'ai la chance d'avoir, au-delà des activités que j'ai faites, toujours la même vision. Et c'est ça qui m'a aidée aussi dans mon personal branding, c'est que j'ai pivoté légèrement, mais je n'ai pas changé ma vision. Et les couleurs sont toujours là depuis 8 ans. C'est le jaune qui est toujours là avec du noir maintenant, mais il y a du bleu, du gris. Mais le jaune est toujours là et ma baseline n'a pas changé. Donc, je me suis toujours dit, mais j'ai toujours envie que les gens laissent leur empreinte. Parce qu'ils sont introvertis, pensent qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire, puissent être visibles. Et ça, en fait, le fait d'avoir une vision qui ne change pas selon ses activités, comme je dis, tu peux être charcutier, boucher, charcutier, et avoir aussi cette même vision, tu peux changer de métier, mais ta vision reste. Et c'est ça qui m'a aidé à me dire, je ne veux pas faire seulement du temps complet, je veux du temps partiel. Et après, quand j'ai décidé, effectivement, de ne plus faire les mêmes erreurs, tu dis, il y a trop de choses, je veux simplifier. En fait, je faisais des process qui n'avaient pas lieu d'être en tant que solopreneur, qui étaient peut-être un peu plus compliqués et qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Et surtout, vu que je me suis dit que quand j'ai voulu vendre, j'étais dans la période d'urgence, j'ai fait très vite, je me dis, mais la première chose, qui est ma cible? Parce que j'avais oublié mes fondamentaux.
C'est ça.
Donc, juste, je suis, donc, en mars, je disais, qui j'ai envie d'accompagner, enfin, c'est aider, accompagner, impulser, parce que comme je dis, j'aime pas le mot aider. Hein, on va tous aider, mais c'est pas la même force. Moi, j'impulse. Je ne t'aide pas, je te donne le coup, voilà, qui va t'envoyer, qui te pousse de la falaise. Donc, qui j'ai envie d'aider, de quelle manière et comment je vais, effectivement, quelle est ma proposition de valeur. Donc, la simplification, j'ai enlevé certains problèmes, certaines applications qui ne me convenaient plus et je me suis remis sur un Excel et sur une feuille de papier où voilà, j'ai réécrit ma vision et en fait, j'ai fait une stratégie, en tout cas des objectifs à 5 ans, ensuite 4 ans et ensuite sur 3 mois. Et sur les 3 mois, ce que je ne faisais pas, je suis revenue, ok, qui, quoi, comment. Est-ce que je ne faisais pas. En fait, c'est des trucs chiants, excuse-moi, et difficiles que l'entrepreneur finalement ne fait jamais. Même s'il dit oui, il fait une stratégie, enfin, mais c'est chiant en fait de le faire, de structurer la tête en fait, d'être un CEO, tu vois, qui réfléchit sur son activité et pas être trop dans l'opérationnel en fait. Et en fait, c'est ça qui est la clé, c'est faire des trucs chiants que je ne faisais plus. Donc j'ai fait des trucs chiants pour simplifier et revenir à la base du papier, mes objectifs et ma stratégie.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je le dis souvent à certaines de mes clientes, c'est pour ça que je parle de CEO. Généralement, quand tu es solopreneur, tu n'as pas de management, tu n'es pas vraiment CEO en quelque sorte, mais de prendre cette position-là, parce qu'en fait, quand on commence, on est des experts. Je veux dire, tu étais experte dans ce que tu fais. Tu n'es pas du tout dans une personne qui manage, une leader d'une vision à ce moment-là, même si tu en as une. Et donc, du coup, on a l'habitude de travailler comme un expert. Donc, on doit être dans le faire, dans l'opérationnel, etc. Et prendre le recul, de pas se mettre la tête dans le guidon, etc., c'est difficile. Donc, j'aime bien quand tu dis, même si c'est chiant, il faut le faire. C'est comme les tâches d'admin.
C'est ça, en fait. Et souvent, bah, quand on est entrepreneur, on se dit, on est content parce qu'on va travailler avec, on pense qu'à la notion de plaisir, en fait, mais de faire ce qu'on aime et tout ça. Et toute cette partie, en fait, bah, on doit être, je pense, il faut quand même un moment qu'on se forme et qu'on, voilà, mettre le nez dedans, ben c'est celle que moi c'est celle que je procrastinais le plus. C'est celle que je procrastinais le plus parce que en fait cette procrastination c'est que mon cerveau ne voit pas l'importance d'eux. Il était dans le plaisir immédiat et voilà et j'ai mis une à deux trois journées pour voilà simplifier, savoir qui est ma cible et tout ça, prendre le temps et simplifier. Ben en fait pour moi c'était revenir à la base.
Et est-ce que c'est de là que donc du coup qu'est sorti ton concept de la dramapreneur ou elle était avant là, elle est quand c'est qu'elle est sortie?
C'est de là qu'est sorti parce que donc je commençais à aller mieux moralement et donc en février je recommençais un petit peu à regarder ce qui se passait et j'ai vu tous les défauts que moi j'avais en fait de l'entrepreneur, c'est-à-dire la personne qui reste en tout cas l'entrepreneur sur les réseaux sociaux sur Instagram. Voilà. En fait ma cible elle adore Instagram. Que ça soit pour le plaisir, enfin, elle adore Instagram et elle a pas envie de partir. Et donc, ben, dès que elle fait son post, elle met des heures à faire son post. Et s'il n'y a pas au moins trois likes minimum, quatre likes minimum, ben ça y est, c'est la fin du monde. Voilà, qu'est-ce qui va pas? Elle se remet en question et tout ça. Et moi, c'est ce que j'étais parce que j'ai resté dans ce côté. Et voilà, on fait des dramas pour des choses qui, pour ton entreprise, maintenant. Je fais du mentorat, je dis à mes clients, fais ton job d'entrepreneur. Et c'est pas notre job d'entrepreneur que de rester sur les statistiques, voilà, qui, est-ce que ça va entraîner des clients? Est-ce que, voilà, le fait de perdre des followers, c'est des personnes qui sont dans ton audience? Et j'en plaisante, j'en rigole maintenant, parce que c'est ce que je faisais, et c'est pour ça que j'étais une vraie drama. Drama sur des choses qui n'ont pas d'incidence sur mon activité entrepreneuriale. À moins que je le décide, en fait. Et c'est de ça qu'est né. Enfin, j'ai beaucoup d'autodérision aussi. C'est une aussi, quand même, de mes forces de caractère, comme on parle en psychologie positive, c'est l'humour. C'est que j'arrive à transformer des situations, déjà de l'autodérision, et que tout le monde comprend, parce qu'on l'a tous fait, voilà, sur certaines choses. Et c'est là qu'est né, effectivement, cette dramapreneur, parce que je voulais sortir de cet état de dramapreneur pour devenir vraiment entrepreneur. Donc, moi, je l'ai fait, et maintenant, j'accompagne d'autres dramas à ne plus être drama et devenir vraiment entrepreneur.
Et du coup, ce concept de la dramapreneur, comment ça impacte, tu penses, ton business d'avoir créé vraiment ce personnage? Comment ça t'aide et comment ça aide aussi les gens?
Alors, ça m'aide parce que travailler sur l'autodérision, c'est quelque chose où j'ai réalisé que bah, j'ai réalisé plus facilement mes erreurs, de ne pas avoir de stratégie, d'être focus sur des choses qui, en fait, qui m'enfermaient dans le monde merveilleux d'Instagram où je voulais réussir, où je voulais avoir 3000 followers, mais pourquoi 3000 followers? Qu'est-ce que ce chiffre avait d'importance? Donc, j'ai réalisé ça et comme la drama queen, c'est faire voilà du scandale ou être vraiment comme je dis utiliser une fois t'es bien le lendemain t'es pas bien, toi t'es contente parce que t'as un client et le lendemain t'es pas bien parce que t'as eu que 10 likes sur tes réels. C'est vraiment des hauts et des bas et j'avais pas cette sérénité que j'ai maintenant, cette tranquillité d'esprit, et en fait ça a complètement déclenché les choses parce que le fait de parler justement des défauts, des travers de l'entrepreneur qui, par exemple, tu passes ton temps à enregistrer des trucs, des posts, c'est trop bien, mais tu n'en utilises aucun. Tu ne passes jamais à l'action, tu les enregistres.
Tu dois avoir 500.
Voilà. Et le fait d'en parler, ben, t'as d'autres qui disent, mais ouais, mais moi aussi, je suis comme ça. Et en fait, ça fait relâcher la pression. En fait, ce que je voulais en créant la dramapreneur, c'est relâcher cette pression qu'on se met nous-mêmes de réussir dans notre activité coûte que coûte, de rester dedans et parce que cette pression que l'on a soumise, et ça m'a coûté beaucoup de choses que maintenant je ne regrette plus, mais ça m'a coûté et je voulais vraiment apporter un moment de la légèreté, parce que dans tous les postes qu'on faisait, enfin le call business et ça, on dit oui, si t'es pas ça il faut ça, les erreurs que tu fais, je fais très peu de posts sur des 4 erreurs ou tout ça, parce que c'est une culpabilité des gens, ah, arrête de faire ça. On est entrepreneur, donc forcément, on entreprend, on apprend. Donc, je voulais vraiment alléger le dire, eh, ça va. C'est pas la mort, en fait. C'est pas la mort. Donc, le fait d'apporter ce personnage qui est en grenouillère, qui, quand il a une idée, elle part même en pyjama, elle vient d'arriver, ça allège et ça, en fait, ça a attiré pas mal de personnes qui étaient dans ce côté perfectionniste. Moi, j'attire les perfectionnistes.
C'est ça.
Je ne suis pas, j'attire les perfectionnistes.
Parce qu'en fait, tu détraumatises en utilisant un traumapreneur, tu détraumatises les choses et tu enlèves la honte en fait. Donc, du coup, les gens, même moi, quand je viens voir ton contenu, j'adore. Tu fais toutes mes journées à chaque fois pour les stories ou les reels. Moi, ça me fait ma journée. Mais du coup, ça déculpabilise énormément et ça enlève une pression. Juste le fait de dire en fait, non, mais c'est normal.
C'est ça.
Non, mais moi aussi.
De dire que je suis comme toi aussi, tu sais, ce petit travers que tu caches, que tu veux être parfaite. Non, mais oui, je l'ai fait, mais voilà.
Mais c'est pas dans le sens de la culpabilité. Parce que comme tu disais, les gens disent, tu fais cette erreur, il faut pas faire ça, machin, tout.
Non. Et c'est surtout le fait, quand je pense, j'ai parlé de cet échec et de dire que je suis retournée dans le salariat, bah, je pensais pas, hein, j'ai une vague de personnes qui me disent, oh, mais merci, merci parce que j'hésitais, ou merci, mais parce que je l'ai fait, mais je n'osais pas en parler, ou, on a ce côté, je suis toujours sur les réseaux parce que vraiment, voilà, et maintenant, je l'affirme, c'est devenu quand même ma stratégie puisque j'ai mes clients par les réseaux sociaux, par Instagram. Cette perfection, se cultiver de, par exemple, quand je dis que je me mets en pyjama, c'est pas pour me mettre en pyjama, non, c'est pour dire que vous imaginez quand vous passez votre temps à essayer de bien vous habiller, vous maquiller pour faire une vidéo, voilà, faites-la votre vidéo. Le message, en fait, on passe plus de temps. Alors, pour moi, ça serait marrant de dire en personne, on passe plus de temps sur l'image que sur le message. Au lieu de travailler son message et justement de le seriner, de l'envoyer par n'importe quel biais, on passe ah oui, mais si je veux faire ce récit, si je veux faire cette story, il faut que je sois bien maquillée. Oh, j'ai la flemme et donc je ne fais pas.
Et je trouve que c'est justement ça, pour moi, qui te permet de vraiment créer des liens avec les gens, etc., et de vraiment créer une communauté, et pas juste avoir plein de followers. C'est le fait de vraiment créer un certain groupe de personnes qui se reconnaissent,
etc. Et que je trouve ça génial. Comme je dis, voilà c'est certaines personnes, la plupart, j'ai pas eu, effectivement, peut-être que certains content managers disent « Oh, pas bien !» Effectivement, j'ai pas eu une progression en termes de followers, quand j'ai repris mon activité énorme, même si publiée, mais parce que moi, mon objectif, c'était de recréer le lien avec ceux qui étaient déjà là. Je me préoccupais moins de ceux qui arrivaient que de recréer le lien avec ceux qui étaient déjà là. Et en fait, mes premiers clients en tout cas en 2023, c'était ceux qui me connaissaient déjà depuis 3-4 ans. Mm-hmm. Je vous parlais déjà depuis les réseaux sociaux. 2024 sera différent, mais 2023, l'objectif, c'était vraiment recréer ce lien. Et, mais en fait, je parle beaucoup plus, je communique beaucoup plus en MP que sur mon feed, en fait.
Et c'est ça qui est important, parce qu'en fait, c'est, on est dans du service, donc on répond à des gens, à des besoins qu'ils ont. Et si on ne passe pas le temps de discuter, créer des liens avec eux, parce qu'on te dit, ah, il ne faut pas coacher dans les MP, les machins, tout. Mais si tu ne parles pas à la personne, et quand on dit parler, ce n'est pas vendre, d'accord ? Différent.
Exactement.
Créer un lien avec la personne, savoir l'écouter. Moi, je dis toujours ça, écoute la personne qui est en face, savoir quels sont ses vrais problèmes, ses vraies problématiques, ou ses envies, etc. Parce que c'est pas que des problèmes, ils arrivent aussi avec des envies. Des gens, ils vont venir, ils ont un besoin, ils disent « je veux arriver à ce niveau-là, je veux arriver à me montrer en pyjama, je sais pas, en reels, peut-être qu'ils viennent comme ça. » C'est un besoin, c'est pas un problème. Il y a quelque chose à aller travailler derrière, mais ils vont pas, pour eux, peut-être pas un problème. Et si on discute pas avec ces gens, si on leur montre pas des choses, ben on va pas, un, on va pas savoir quoi leur proposer, si c'est adéquat ou pas, et deux, cette personne va pas se sentir en confiance avec ce qu'on fait. Donc, je trouve ça super. Enfin, le monde que tu as créé là, moi, je le trouve super. Et du coup, tu as...
Ça n'a pas été facile, excuse-moi. Hein, de toi, parce que c'est aussi créer le fait de dire comment on peut créer humour, dérision, légèreté avec le côté professionnalisme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça ne peut pas du tout aller ensemble. Et comme je le dis, ce n'est pas parce que effectivement, je rigole et qu'on va retrouver aussi cette légèreté dans mes accompagnements que je n'y connais pas et que je ne sais pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que on pense que la crédibilité va venir beaucoup du sérieux et pas forcément.
Et enfin, moi, t'as un paradoxe en plus chez toi, c'est que t'as même, t'es très sur l'image, sur le branding, sur etc. Non, mais et à côté de ça, tu vas avoir les deux. Ouais. Et quand tu le mets en contraste, moi, je trouve encore plus fort, en fait, quand tu le montres. De dire, oui, il y a ça, c'est l'image, ça, je peux avoir mon image professionnelle comme ça, etc. Mais je suis aussi cette personne-là. Et là, ça humanise à 10 000% ce que tu fais, en fait.
Et je pense que c'est ce qu'il faut, en tout cas, maintenant, pour nous distinguer. Et je l'ai vu, en tout cas, le personal branding, en 2023, était vraiment une des clés voilà, qui apparaissait sur l'imagerie, parce que tout le monde en a un peu parlé, que ce soit du business, qu'on soit dans le graphisme. On parle toujours de être soi-même, d'utiliser ça, et on l'utilise et on en parle. Moi, je ne parle que de personal branding, voilà, que de marque personnelle. Mais comme je dis, ben, vous voyez, les autres en parlent, donc allez-y. Mais je pense qu'en 2023, ça y est, on commence à savoir ce que c'est. 2024, je pense que ça va être plus que jamais stratégique de vraiment avoir un process de personal branding pour se distinguer, en tout cas en tant que solopreneur.
Mais du coup, toi, tu as donc créé ce service, je ne sais pas depuis quand tu l'as créé, mais le mentoring de la dramapreneur. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu accompagnes, qu'est-ce que c'est cet accompagnement de mentoring? Parce que certaines personnes ne font pas trop encore la différence. Qu'est-ce que c'est un mentoring?
Ou la différence entre mentoring et coaching.
On est dans le coaching, consulting, etc. Le mentoring, ça reste encore en France, je trouve, encore un peu flou. Donc du coup, c'est quoi ce mentoring de la dramapreneur? Comment tu aides et les gens donc à surmonter leurs difficultés ou à aller développer ce qu'ils veulent?
Exactement. Alors c'était mais justement, c'était aligné avec cette idée de simplification. En fait, vu que j'étais toute façon salariée, donc je pouvais pas créer de système, même si là j'ai fait quand même en fin d'année, mais de système où je fais des formations en ligne, où je mets plusieurs personnes et voilà, je suis prête puisque je ne suis pas à 100%. Mais je me suis rendue compte aussi que, parce que moi aussi, en tant qu'ex-dramapreneur, la dramapreneur, elle est fanat des formations. Elle en prend des tonnes. Même qu'elle n'utilise pas, mais cette formation sur ça, cette formation sur ci, cette formation, en fait, comme je dis à chaque fois, c'est tu penses que tu as besoin d'une armure pour aller dans l'entrepreneuriat et réussir. Donc, tu mets l'armure du storytelling, l'armure du copywriting, l'armure de la stratégie commerciale. Après, il faut, hein, mais tu mets ça, mais tu n'en utilises aucune. Et le fait est, c'est que c'est dommage, en fait, d'avoir des formations plus sur certaines sont de qualité, mais tu es tellement goinfre que tu sais même pas si tu en as besoin à ce moment-là.
C'est ça.
Puisque tu n'as pas de stratégie. Et donc, par rapport au coaching où tu as peu accompagné par rapport à un objectif précis que tu as, le mentoring, en fait, c'est la personne comme moi qui est passée par les mêmes écueils que toi. Donc, en fait, c'est vraiment des discussions. il n'y a pas un objectif. En fait, l'objectif du mentoring de la drama entrepreneur, c'est de te faire sortir de cet état de drama pour te faire voir en fait d'un angle différent en fait tes soi-disant en fait si elles sont là tes difficultés. Donc en fait ce ne sont que des discussions. On ne parle pas forcément que d'entrepreneuriat, mais par exemple d'un contexte aussi familial, d'un contexte de ok comment ça va aujourd'hui. Ah ben oui, je me suis disputée avec mon conjoint parce qu'il comprend pas. Oui, pourquoi il comprend pas? Parce que tu n'en parles pas. Enfin, voilà. Donc c'est pas forcément de la psychologie, mais le mentorat c'est sortir de notre état que d'entrepreneuriat et de discuter des choses par lesquelles moi je suis passée. Et je peux te dire oui, je comprends, mais je comprends vraiment si tu voilà voyais les choses par là. Et en fait on s'aperçoit que bien les clients ben ils ont besoin de parler. Pas forcément d'être focus tout le temps en fait sur ben voilà la stratégie pro et tout ça. Ils ont besoin un peu de lâcher prise et de parler des choses d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs pour dire oh, j'ai honte de dire ça, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Ah ouais,
ça.
Et rien que ça en fait échange de stature. C'est-à-dire que ma première cliente qui a arrêté il y a pas longtemps, donc c'est des sessions de 4 ou 6 mois vraiment pour papoter en fait, son objectif avec moi, c'était oui, je vais être visible sur les réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de nos sessions, elle s'aperçoit mais pourquoi je vais être visible sur les réseaux sociaux? Je commence tout juste, je me mets la pression pour faire des beaux posts et je lui ai dit à un moment donné, écoute, est-ce que tu as des réseaux d'entrepreneurs dans ton coin? Est-ce que tu es allé voir juste des magasins, des boutiques? Voilà, te confronter juste. Ah ben non, j'ai pas fait. Et en fait, le fait de l'avoir fait, elle a eu des résultats, c'est-à-dire qu'elle a eu des contacts et tout ça, beaucoup plus gratifiant, en fait, en une semaine, parce qu'elle est allée faire du réseau, parce qu'elle a fait, que le fait d'attendre, en fait, devant son téléphone, qui est un client qui se pointe. Donc, le mentoring, c'est vraiment, c'est des discussions, comme dit, c'est vraiment des discussions, et le mentor, en fait, va pouvoir te donner son expérience.
C'est ça.
Et te donner, en fait, un angle de vue différent. Donc, c'est vraiment pas du coaching parce qu'il n'y a pas d'objectif, mais c'est le fait en fait de changer de stature, d'être moins drama dans des choses ou vraiment d'apprendre à dire mais c'est quoi ton job d'entrepreneur en fait. Oui, c'est vraiment c'est d'avoir des trucs comme ça. Est-ce que passer 3 heures sur ton contenu va aider si je pose des questions, mais je dis souvent bah moi je te dis j'ai fait ça, je me suis cassé la figure.
Et j'aime bien quand tu dis le retour aussi d'expérience. Parce que bien sûr, tu vas avoir comme des formes de coaching quand tu vas les mettre devant des questionnements, ces gens-là. Après, il faut qu'ils... Mais tu vas aussi dire ton retour d'expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et quels sont donc du coup les impacts, que ce soit positif ou négatif pour eux. Et donc ça, je trouve
voilà ça... Ce que ça a pu donner, effectivement. Et comme je dis, le coaching, même un bon coach n'est pas obligé d'être dans ton même secteur d'activité non. et tout ça. Parce qu'il va être vraiment expert dans sa partie et c'est cette partie-là que tu vas avoir comme objectif. Et en fait, moi aussi dans le mentoring, ben je dis ben voilà, tu es en train de faire cette formation. Comment ça se passe? Tu as réussi à appliquer ou pas? Est-ce que c'est bien pour toi? Donc voilà, comme je l'ai dit, on peut faire du mentoring et être et avoir une formation, ce suivi totalement à côté. C'est vraiment pas divergent, mais c'est surtout que je m'aperçois aussi de plus en plus que les gens ont vraiment envie de parler, c'est-à-dire en tout cas ma cible d'être accompagnée au-delà de leurs objectifs et tout ça, et surtout d'avoir cette ligne directrice puis se la créer eux-mêmes évidemment, mais dans le milieu de la formation en ligne et tout ça, je pense que les gens ont de plus en plus besoin d'accompagnement.
Voilà. C'est ça.
De se dire je peux pas à qui je peux parler directement tout de suite
c'est
à
ça.
Quelqu'un sans pour autant qu'il y ait un objectif précis derrière.
Moi, je pense aussi, c'est une tendance que j'ai vue beaucoup en 2023 déjà, et qu'en 2024, je pense que ça va se mettre encore plus, ce besoin d'avoir quand même quelqu'un avec qui parler. Il y a des formations, on n'a pas forcément besoin, mais d'avoir une certaine proximité, qu'après, on peut choisir selon notre niveau où on veut d'investir autant d'argent qu'en énergie. Hein. Mais du coup, je pense qu'il y a un besoin de lien, et surtout en entrepreneuriat, puis là, les gens, ils commencent à se dire, voilà, oui, c'est beau ce qu'il y a sur Instagram, mais moi, ça marche pas pareil. Comment ça se fait? Donc, je pense qu'il y a, là, on commence à se dire, il faudrait qu'on voit la réalité des choses. Donc, ça, c'est top. Mais j'aime bien. Donc, ce que tu parles dans ton contenu, tout ça, tu parles de savoir devenir. Donc, moi, c'est un mot qui m'a un peu, ça veut dire quoi, savoir devenir? Tu parles aussi de motivation, de prise de recul, etc. Et donc, du coup, dans le contexte de l'entrepreneuriat, tu dis le développement du savoir devenir.
Savoir devenir. Et l'un de mes premiers ateliers, quand j'ai commencé il y a 8 ans, c'était as-tu le look de l'entrepreneur? Mais c'était au-delà du look, c'est la posture d'entrepreneur. Il y a une transition en fait qui se fait quand tu sors du salariat et tu dis je vais devenir entrepreneur. Donc tu dis ah ouais, ça va être la liberté tout ça, mais tu reprends les mêmes codes du salariat. Donc à travailler des heures pendant 10 heures alors que
9h 18h
voilà alors que t'as rien réfléchi parce que au tout début à part effectivement réfléchir sur une stratégie et tout ça, bon, t'as pas forcément les manes et donc t'es frustré et tu dis oui mais il faut que je travaille, mais travailler sur quoi? Donc le savoir devenir, c'est développer en fait entre guillemets les compétences de l'entrepreneur, c'est aussi la patience de savoir devenir aussi, de savoir entreprendre, c'est-à-dire de passer en mode test. Parce que vu que la perfectionniste arrive dans l'entrepreneuriat, il faut que son poste soit bien, son contenu soit bien, son offre soit bien, que elle soit bien. Mais finalement, et quand elle s'aperçoit que ça fonctionne pas, elle se dit bah c'est la fin.
C'est ça.
Alors que si on passe donc en devenir entrepreneur, c'est en fait c'est passer en mode test. Pourquoi l'entrepreneur réussit? C'est parce qu'il fait des actions. Des actions. Il se lance dans des actions, il va voir ou pas si ça fonctionne. Il va aller faire. Et comme je dis, moi, ma première année d'entrepreneuriat, je n'ai pas été capable de faire un bilan. Parce que j'avais rien fait. En fait, j'avais rien fait de concret. J'avais passé presque une année à faire moi-même du site internet, mais sans avoir de retour des gens, donc savoir si c'était bien pour moi, c'était bien, mais un an à faire ça. Et en fait, bilan de la première année, rien, parce que j'avais pas osé, j'attendais que tout soit parfait, j'avais rien tenté. Donc, j'ai pas pu faire de bilan. Chaque fois, je dis, j'ai pas pu faire de bilan la première année, parce que j'avais rien. J'avais travaillé sur quelque chose, mais sans avoir de retour, sans l'avoir testé. Parce qu'on a l'impression que, voilà, dès qu'on poste un truc, ça y est, c'est la fin, c'est ce poste-là qui va me faire avoir des clients, c'est ce réel qui va me faire ci, c'est cette action qui va, donc je mets tout mon énergie dans cette action, c'est cet article de blog qui va me faire. Alors que donc, savoir devenir, c'est pour ça vraiment changer la posture de dramapreneur et vraiment faire son job d'entrepreneur, on ne l'apprend pas, même dans les formations, parce que on veut aussi, comme je dis, le fait aussi d'accumuler les formations, c'est s'armer. On veut se protéger en s'armant en disant, OK, voilà, comme ça, au moins,
après, on avance plus trop lourd.
J'ai de savoir. Voilà, exactement. Et après, tu te fais confiance. Mais avec tout ce que j'ai comme savoir, normalement, je réussis. Mais oui, mais si tu passes pas à l'action, tu as beau être un beau chevalier en armure. Si tu vas pas, entre guillemets, à la guerre, tu vas pas savoir si ton armure, elle est supportable. Donc, le savoir devenir, on le sait pas forcément. Et moi, comme je dis, quand je dis, je pousse de la falaise, c'est que je te dis, parce qu'il y a des personnes, des clients qui me disent, ah ouais, mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Et moi, je dis, bah vas-y, fais-le.
C'est le fait d'entreprendre. Hein,
et ça, c'est totalement déstabilisant, parce que la personne me dit, mais tu verras bien.
T'en as parlé un peu au début, de fait que tu as dû te stopper et de voir ce qui se passait, même si c'était chiant, comme tu dis. Donc du coup, toi, en quoi cette prise de recul peut être bénéfique donc, pour les entrepreneurs? Ou peut-être pour les dramapreneurs.
Elle peut être bénéfique dans le sens où quand on est, alors j'aime pas le on parce que ça généralise. Mais quand la plupart des gens deviennent entrepreneurs, c'est pour des raisons individuelles. C'est pour nous-mêmes ou pour arrêter quelque chose qui ne nous convient plus ou un système où on a vécu des burn-out, des choses assez fortes dans le salariat et on veut passer à autre chose et c'est des raisons individuelles, mais après, je me suis aperçue vite que pour durer, je ne pouvais plus être dans l'individuel. C'est-à-dire que mon message était tellement fort que il devait, voilà, continuer à être porté et que la seule personne qui pouvait le porter à ma façon, c'était moi. Dans le sens que, pourquoi c'est bénéfique? Parce que c'est ce message, cette vision qui m'a fait durer. Et je me suis aperçue que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait, je me suis formée à un métier, celui de conseillère en image, type vestimentaire et tout ça. Et je me suis aperçue que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, se former à un métier. Mais ce qui m'a fait durer, c'est que je pensais que j'allais faire du conseil en image pendant toute ma vie. Pendant plus de 15 ans, 20 ans, c'est que ça, c'est le métier, parce que, mais en fait, non, c'est ma vision qui fait durer, j'ai changé d'activité. Mais ma vision est restée. Donc, ce qui est bénéfique pour, le mentorat peut te faire voir, mais est-ce que, oui, l'entrepreneuriat, pourquoi effectivement tu as choisi l'entrepreneuriat? et quelle est ta vision au-delà de ton métier. Souvent, je me dis, mais ok, ça, c'est ton métier, mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Tu penses que tu feras la même chose? Oui, mais pourquoi tu feras la même chose? Tu vois, que ta vision, effectivement, et c'est ça qui est bénéfique pour durer, si on a envie de durer, en fait. Pendant ce
moment. C'est ça.
Et c'est surtout de savoir reconnaître son propre succès. Quand je dis savoir reconnaître son propre succès, c'est-à-dire, ben, quand on est amalgamé avec les, j'ai fait 10 000, même si je reproche aussi à certains coachs business qui te disent, oui, il faut arrêter de voir le nombre de followers et tout ça, mais leur poste qui marche le plus, c'est quand ils disent, ben, j'ai réussi en 6 mois à faire 100 000 euros. Bon, tu me dis qu'il faut pas, mais tu me dis quand même, tu me fais ton petit poste, voilà, ne regarde pas l'argent. Mais, donc, en fait, on se perd dans les succès des autres. Et ça, c'est ça qui nous fait arrêter, parce que vu qu'on veut avoir ce succès-là qui n'arrive pas, on se reconnaît pas, on part, on arrête, on dit « je suis nul ».
C'est ça.
Alors que non. Et c'est ça qui a été long pour moi, mais c'est reconnaître quel était mon propre succès. Mais finalement, en fait, mon propre succès, c'était ma longévité. Parce que comme je dis, j'allais passer à un stade où j'allais devenir entreprise, juridiquement passer un, et tout s'est périclité à ce moment-là en 2022. Comme on dit maintenant, il y a dû avoir une explication parce que j'ai perdu mes fondamentaux et tout ça, mais si je regarde en arrière, ça fait 8 ans.
C'est ça.
Et je fais partie du 1%, en fait, dans les statistiques d'entrepreneurs qui ont, en termes de longévité.
C'est ça.
Pas forcément, effectivement, en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de longévité. Et moi, c'est ce que je veux quand j'accompagne mes dramas, c'est de dire, c'est tenir sur la durée. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Comme le personal branding, c'est un processus. C'est pas, hop, j'applique ça, ça y est, c'est fait. C'est un processus sur la durée. Et c'est ça qui est un peu plus dur parce que les entrepreneurs voient à court terme.
On est très dans le court terme, et parce que en fait, et en plus tu as parlé de ce client là que tu as perdu en quelque sorte à un moment donné. Il a très bien marché, il est monté, sauf qu'il n'était pas prêt la progression. Et là aujourd'hui, si on prend des entrepreneurs qui ont très très bien marché en 2022, il n'y aura pas de nom bien sûr, qui ont très très bien marché mais qui sont un peu cassés la gueule après, pourquoi? Pas parce que leur service n'était pas bien, pas parce qu'ils ne se montraient pas sur les réseaux, etc. C'est qu'en fait ils ne savaient pas gérer la chose. Donc c'est bien de vouloir aller très haut, etc., hein, d'être de succès. Donc, si on veut ça, c'est bien. Mais est-ce que on fait un business pour avoir un succès à un moment donné, ou est-ce qu'on veut un business dans la durée? Donc, moi, je dis, il y a des gens, on veut avoir peut-être 10 000 euros par mois. Si c'est quelque chose qui correspond à notre style de vie et ce qu'on veut, go. Mais si toi, aujourd'hui, tu as besoin d'avoir 3 000 euros, go, je veux dire. Donc, comment tu arrives à le faire sur la durabilité sans te perdre non plus à travailler trop, etc. Moi, c'est vraiment ma mission pour moi. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu me dis que ta vision, c'était la même, et que la manière d'arriver à cette vision, tu as eu des pivots, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, etc.
C'était différent,
mais ça,
tout à fait.
Ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. Je pense que c'est là où la prise de recul pour toi, et tu en as dit plusieurs fois dans le podcast, où tu as eu cette prise de recul, où tu t'es mis, tu t'es dit, ok, mais moi, mes raisons, c'est ça. Moi, c'est ça. Attends, on va revenir sur mes fondamentaux. C'est qui mon client idéal? Je vais aider. Ok, je vais faire ça. Ok, donc maintenant, on y va. Mais ta vision, elle n'a jamais... Ta mission, peut-être qu'elle a un peu, mais ta vision, exactement, ce que tu veux faire, elle est là.
La vision n'a jamais bougé. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que aussi dans le personal branding, c'est ça qui va nous aider aussi à être identifiés et surtout mémorisables. Parce que le but, justement, de ce process, c'est de devenir mémorisable. Dans la foule, on a tous des concurrents, on est souvent, certains sont même dans des marchés saturés, et qu'est-ce qui va faire que c'est qu'on va être identifiable et mémorisable, mais c'est cette vision. Et cette vision ne concerne que nous. C'est-à-dire qu'elle va pas être happée, elle ne doit pas être happée par une trend ou par, quelque chose. Oui, je veux vivre une vie, Et je me suis aperçue que le côté financier ne me parlait pas, moi. En fait. Donc, j'ai refait mon vision board aussi. J'ai vraiment refait là. Et je me suis aperçue que le côté financier ne me parlait pas dans le sens que je veux avoir ça. Non, je veux avoir ça, mais pour mon côté hippie. Plus rien. Pour me faire un spa une fois par mois avec mon cousin, pour participer à la vie de famille, sans que j'aie à regarder beaucoup les sous. C'est cette sérénité, et vraiment 2023 avec le mot, c'est sérénité. que je voulais retrouver, cette sérénité et c'est cette vision qui, quand je me suis aperçue à la retravailler, elle n'avait pas bougé. Donc, comme je dis, que je sois boucher, charcutier ou pas, ben, cette vision est la même et c'est ça, souvent, en tout cas pour moi, qui a fait que j'ai duré et que je me suis dit, ben, je ne suis peut-être pas conseillère en image, je ferai autre chose, mais avec la même vision, en fait. Et c'est le fait de, pour un entrepreneur, de dire, mais je peux avoir d'autres projets, mais la vision est la même, c'est pas grave en fait, c'est pas grave de changer le chemin.
Et du coup, tu parles beaucoup de personal branding, donc du coup, tu vas nous en parler un tout petit peu quand même. Donc du coup, comment tu penses que le personal branding peut jouer un rôle en fait dans la réussite d'un entrepreneur? En quoi? Surtout, tu dis que là, ça, le personal branding, ça va prendre une nouvelle place en 2024. Ouais. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu de comment? Parce qu'il y a encore des gens, je pense, qui ont du mal à différencier, par exemple, le personal branding, une image de marque, etc. C'est un peu flou, tout ça. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu?
En fait, par exemple, notre logo, ce n'est pas notre marque. Ce n'est pas notre marque personnelle. Et souvent, on commence souvent par le logo, hein, des gens qui veulent devenir, comme je dis, hein, on met en photo de profil, surtout comme on dit sur les réseaux sociaux, ne mettez pas votre logo en photo de profil, puisque c'est un réseau social. Et en fait, on met directement un logo. Le logo, quand il prend sa puissance, en fait, et sa force, c'est quand on a identifié les valeurs, quand on a identifié la proposition de valeur d'une marque. C'est ça. Donc, nous, en tant que solopreneur, on peut pas devenir une marque. C'est pour ça qu'on parle de marque personnelle. Parce que quand on débute, les gens ne nous connaissent pas. Coca-Cola, oui, est une marque. Apple est une marque. Parce que ils ont défini, et rien quand on voit la pomme, voilà, les gens achètent quelque chose, même sans savoir si le produit est bon, ils veulent acheter la pomme. Donc oui, là, c'est une marque qui s'est construite et elle s'est même dissociée même de ses fondateurs. Hein.
C'est le but. Quand tu fais
2003 et tout ça, et ils connaissent même pas, voilà. Et ça s'est complètement dissocié. Donc là, c'est... Mais nous, en tant que solopreneurs, nous ne pouvons pas encore nous dissocier, en fait, de notre activité. Et donc, la force, en fait, d'une marque personnelle, c'est que je vais mettre ma personnalité, mes valeurs dans mon logo. Donc, en fait, quand on débute, notre logo est beaucoup moins fort, notre branding est beaucoup moins fort que notre personnalité. Même si les deux, effectivement, peuvent s'allier, mais c'est pour ça que je le disais toujours, avant de travailler son logo, travaillez votre marque personnelle. C'est ce qu'on appelle, en fait, la plateforme de marque. Donc, c'est la vision, la mission, le style, la promesse. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que je dis, moi, je travaille aussi avec des gravistes. Parce que le travail que je fais permet en fait de faciliter en fait un graphiste de pouvoir créer une identité de marque. Donc la marque personnelle, comme on dit, ce n'est pas notre logo. Mais c'est pas facile quand on dit à quelqu'un de dire bon ben voilà, sois toi-même, parce que on nous l'a pas appris. Quand on parle effectivement de storytelling, de raconter son histoire, en fait, les gens pensent mais c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui va faire que? Et en plus, il y a des colonisateurs qui disent, moi, ne parlez pas de vous, mais parlez du point douloureux, tout ça. Et moi, je dis, même si, parlez de vous pour parler des autres. Donc, le personal branding, enfin, voilà, c'est la stratégie de marque personnelle, parce que c'est vraiment une véritable de stratégie, en fait, va permettre d'avoir effectivement cette authenticité, mais cette crédibilité qui va faire que les gens ont envie de travailler avec vous. C'est-à-dire que je ne suis pas la meilleure coach en personal branding, mais les gens qui travaillent avec moi ont envie de travailler avec moi pour ma personnalité. C'est alors, il y en a qui vont dire, oh, mais quand même, c'est pas, mais c'est comme je dis, c'est comme en salariat, quand on recrutait des gens, il y a des gens qui ont recruté en disant, punaise, mais ils m'ont recruté alors qu'il est nul. Oui, mais au niveau de ses soft skills et de sa marque personnelle, ils avaient besoin d'eux, pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il va aller bien s'ancrer dans cette entreprise. Et pour nous, c'est pareil, en fait. On veut devenir être meilleur, mais souvent le client marche par l'émotion.
Complètement, c'est l'émotion.
Et cette émotion, il va la retrouver dans des choses effectivement authentiques et humaines qu'on n'arrive pas à comprendre tout de suite quand on débute son activité, mais c'est bien le cas. Et donc, moi, je travaille avec les clients pour que leur cible ait envie de travailler avec eux pour eux, et pas parce qu'ils sont bons.
Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, on fait un peu tout à l'envers, parce que justement, on regarde ce qu'il y a sur Instagram, etc. Donc, on va se comparer avec des gens qui sont déjà au niveau 40 et on va vouloir faire pareil. Et donc, on se dit, bah, il me faut mon logo, il me faut mon machin. Après, il y a des gens qui ne veulent pas se montrer, etc. Ça, c'est notre choix. Hein.
Mais c'est quand même poser une marque personnelle.
C'est ça. C'est ça. Et donc, je pense que les gens, en fait, on fait tout un peu à l'envers. On va commencer par le site internet et le logo, alors qu'on n'a même pas encore essayé de mettre en avant qui on est, nos valeurs et les tester, hein, parce que des fois on se dit ben moi je suis comme ça, mais en fait ça c'est ce que j'aimerais être et pas ce que je suis, donc de se réajuster et après on peut faire tout ce travail-là de son logo, d'avoir une marque différenciée, etc. Donc du coup là pour finir un peu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des entrepreneurs ou des dramapreneurs pour commencer leur marque personnelle, s'ils veulent faire un personal branding, ils connaissent rien et ils veulent commencer ou à s'instruire ou à faire des premières actions, qu'est-ce que ça serait ?
La première chose, c'est la plus complexe, mais dès qu'on l'a, franchement, ça ira comme sur des roulettes, c'est la connaissance de soi.
Et voilà.
La connaissance de soi, et la connaissance de soi, ça peut être par différents autres très simples. Par exemple, souvent, moi, quand je me présente sur certains postes, je dis je suis Lion. Manifesteur générateur, profil de l'Enneagramme, ENFP, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de tests de personnalité, tout simplement, qu'on peut retrouver, soit des tests de personnalité, soit des tests de notre comportement pour analyser, en fait, comment nous, on est.
C'est ça.
Parce que il faut d'abord se connaître pour savoir ce qu'on a envie de montrer aux autres. Et en fait, c'est la gestion de l'image. Donc, la première chose, sans vous dire, mes valeurs et tout ça, c'est de savoir, qui je suis moi? Ok. Je sais que je suis ci, je sais que ça. Connaître plus ses qualités que ses défauts. Parce qu'on a tendance souvent à vouloir améliorer, estomper, rogner, parce qu'on dit on n'est pas assez. Mm. Et moi, je dis, en fait, c'est plus dur de travailler sur le positif que sur le négatif. Mais c'est ce qu'il faut. Parce que c'est comme un athlète, on a des capacités exponentielles à se développer sur des choses qui sont déjà bien. Par exemple, Usain Bolt, pour ceux qui le connaissent, c'était vraiment un grand coureur sprinter jamaïcain. Lui, ses grandes capacités, c'était pas le départ, c'était l'accélération. Donc, il a travaillé sur ses départs, mais plus il travaillait sur ses capacités d'accélération, et plus il était encore meilleur. Et nous, ne perdons pas trop de temps à vouloir améliorer, mais travaillons déjà sur nos qualités. Moi, j'ai travaillé effectivement sur le côté où j'ai une capacité à avoir l'autodérision, mais à avoir le côté humoristique dans beaucoup de situations. Donc, je travaille sur ça, effectivement, sur ce côté, effectivement, humour. Et je le développe de plus en plus parce que c'est facile aussi pour moi. C'est une force, comme on l'appelle en psychologie positive. Ça sera un autre sujet. C'est une des forces de caractère, quoi. Donc, apprenons à connaître nos forces pour pouvoir, en fait, les développer et savoir, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on va arriver, forcément, à trouver notre différenciation parce que nous sommes uniques. Mais mieux que nous essayons d'être de bons élèves, on reproduire, qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? Il doit être ci, il doit avoir ce logo. La première chose qu'on fait, c'est la carte de visite. C'est la carte de visite, mon logo, parce que on est content. Et non, la première chose à faire, c'est savoir se connaître. Ouais. Donc, c'est monter et construire sa vision et pas en une heure. Ça sera pas en une heure. Ça sera sur de la réflexion. Mais la première chose à faire, vraiment, c'est se connaître.
Sur ces magnifiques mots, on pourra finir le podcast. Bon, vraiment, merci d'avoir partagé tout ça. Pour les gens qui se retrouvent dans la drama-preneur ou qui sont un peu curieuses de savoir qu'est-ce que c'est cette drama-preneuse, je mets tout dans la description pour savoir comment venir aller voir le monde de génie de Pop Image, parce que vraiment c'est...
Et n'hésitez pas à me faire un coucou ou en MP. C'est aussi le côté que je veux apercevoir, c'est l'accessibilité. Il y a des feeds, mais vraiment en message privé... N'hésitez pas à aller discuter avec les gens.
Allez voir, faites un tour, allez lui parler, parce que ça en vaut vraiment le détour et de dédramatiser un peu tout ça, de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'on fait et de peut-être un peu mettre de l'ordre dans tout ce qu'on fait dans les actions. Voilà, donc merci beaucoup pour être venu aujourd'hui dans cette interview et puis à très vite sur les réseaux.
Au revoir, à bientôt, c'était un vrai plaisir.
Bye bye.